à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. Il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire Europe Direct accueille Shiloh, qui est parti pendant un an en Islande pour une mission de volontariat avec le Corps européen de solidarité. Bonjour Shiloh.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Shiloh, j'ai 23 ans. J'en avais 21 quand je suis partie en Islande. Et oui, je dirais que c'est tout.
Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Corps européen de solidarité ?
Pour faire simple, c'est comme un service civique dans un autre pays d'Europe, souvent dans un projet social, solidaire, pour l'intérêt commun.
À quelle mission as-tu participé et pendant combien de temps ?
Je suis partie le 24 septembre 2024, je suis revenue le 4 octobre 2025 et j'ai été en quelque sorte réceptionniste pour l'association nationale LGBT d'Islande, à Reykjavik.
Est-ce que le processus pour trouver ta mission, il a été long, est-ce qu'il a été difficile ou est-ce que tu as plutôt trouvé ta mission rapidement ?
Il a été relativement long, j'ai commencé à chercher en février. 2024 et j'ai été acceptée pour Samtokin en Islande le 4 septembre 2024. Ça a pris un peu plus de 7 mois, mais je savais que je voulais partir à la rentrée de septembre. Je m'étais focus sur des projets qui commençaient en août-septembre 2024 et j'étais contente de trouver à cette période-là, au final.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tes missions et les activités que tu as pu faire ? Et est-ce que ta mission t'a plu ?
Alors, ma mission m'a beaucoup plu. Le pays aussi, et on y reviendra plus tard. Mes missions au global, alors principalement, c'était d'accueillir les gens, le public, qui venaient pour des rendez-vous, des conférences, un peu plein de possibilités, de raisons de venir, de m'assurer qu'ils se sentent accueillis, acceptés, qu'ils sachent que je ne suis pas là pour les juger. Offrir un petit café. Voilà. Après, Samtokin, donc l'association dans laquelle j'étais, a une boutique en ligne. Et donc, j'emballais les commandes des gens. Pour que ça parte à la poste. Voilà. Et après, j'étais ce que j'appelle petite main. On a besoin de faire quelque chose. Je suis quelqu'un de très éclectique dans ce que j'aime faire. Donc, si je peux aider, je donne un coup de main. Et c'était, voilà.
Est-ce que c'était la première fois que tu partais seule à l'étranger sur une aussi longue période ?
Oui, même quand j'ai quitté le foyer familial en 2021, je suis partie à Tours. Angers, Tours, ce n'est pas très loin, c'est 1h10 en voiture à tout casser. Donc là, je me suis retrouvée à 4 heures d'avion, plus les bus et les trains pour rejoindre les aéroports. Donc oui, c'était... Et dans un sens, ça m'a quand même rapproché de ma famille. Parce que quand je vivais à une heure, je me disais, je vais rentrer le week-end. Je vois pas pourquoi j'envoyais un texto. Et là, du coup, on s'appelait au moins une fois par semaine. On s'envoyait des photos. Donc dans un sens, ça nous a rapprochés.
Au début de ta mission, est-ce que tu as rencontré des difficultés liées à la barrière de la langue ?
Non, parce que je savais que j'allais dans une association qui accueille majoritairement un public étranger et que j'allais majoritairement être amenée à parler anglais. J'avais déjà un bon niveau d'anglais en partant. J'avais fait des tests, de toute façon, pour être sûre que tout pourrait coller. Le plus compliqué, c'est que l'anglais varie avec les accents et que l'islandais a un accent assez prononcé. Du coup, ça était un peu compliqué au départ, mais je m'y suis très vite fait.
Et donc, est-ce que tu as appris l'islandais ?
J'ai eu des cours. J'ai eu 7 semaines de cours par semaine. J'ai eu 14 heures de cours en tout. Mais l'islandais, c'est une langue très compliquée. Donc, j'ai 4 phrases et après, j'ai des mots de vocabulaire au pif.
Ok. Et comment s'est passée ton intégration au sein de ton association ? Est-ce que tu étais avec une équipe d'autres volontaires ou est-ce que tu étais seule ?
J'étais seule volontaire dans mon association. Ils étaient 6 employés, il me semble, à travailler là-bas. Et donc j'avais deux des employés qui étaient Et même mes mentors, j'avais des tâches de base à faire, mais si je ne savais plus quoi faire, j'allais les voir. Je leur demandais, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez que je peux faire pour aider? Et voilà. Donc, j'ai été très bien intégrée, très vite. Premier jour pizza. Le meilleur vecteur social, c'est la nourriture.
Oui, ça c'est clair. Est-ce que, de manière générale, les Islandais sont accueillants?
Oui, les Islandais sont très accueillants. Et ce qui permet aussi de créer du lien, c'est que malgré tout, c'est petit l'Islande. L'Islande, c'est 400 000 habitants. C'est Nantes. Reykjavik, c'est 220 000 habitants. C'est tout petit. Donc très vite, de lieu en lieu, on recroise les mêmes personnes. Et du coup, très vite, il y a des gens qui réagissent en disant « Oh, t'es là !» On s'était vu à cet endroit-là. Donc ça, ça permet de créer du lien relativement facilement. Je vivais avec 7 personnes. Ça permet aussi de créer un minimum de liens sur place avec des gens qui vivent la même situation.
Donc, où est-ce que tu logeais? Et donc, tu étais en colocation. Comment s'est passée la vie en colocation?
Donc, j'étais en colocation dans une maison où nous, on avait une partie du sous-sol, premier, deuxième étage. Et une autre famille vivait au rez-de-chaussée. On avait 2 portes séparées. C'est très courant en Islande, ce genre de maison. Et c'était 7 corps européens de solidarité aussi, sur d'autres projets. Mais on avait une coordination en commun. Voilà, on était de plein de pays différents, avec plein de cultures. On s'est fait découvrir des plats, des coutumes. C'était très, très chouette.
Ah ouais, c'est trop bien. Tu es partie pendant plus d'un an. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à certaines périodes?
Je pense que le plus compliqué, c'était pas forcément Noël ou les périodes très fortes, parce que j'avais les autres volontaires et qu'on vivait la même chose. C'est l'anniversaire du décès de mon grand-père. Et du coup, de toute ma famille qui s'est retrouvée. Et moi, j'étais très loin. Donc, même si on s'est appelé, ça a été un petit peu compliqué. Mais du coup, mes colocs étaient là pour moi et mes collègues aussi.
Donc, ils venaient de quel pays, tes colocataires?
J'ai eu vraiment de tout. J'ai eu Russie, Finlande, Norvège, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Autriche, France aussi. Et même 2 Mexicaines qui, ayant un droit de résidence en Espagne, pouvait participer au corps européen de solidarité. Et du coup, on avait un gros mix culturel. C'était très, très chouette.
Ouais, c'est hyper cosmopolite. Est-ce que tu avais le temps de voyager et de découvrir l'Islande en dehors de tes heures de volontariat?
Je ne suis pas quelqu'un qui, étonnant pour un corps européen de solidarité, je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, même intra-France. Je reste énormément, même dans mon quartier. Et du coup, j'ai profité de quand ma famille venait et me tirait avec eux. J'ai eu beaucoup de visites. J'ai eu ma tante et ma cousine, une amie, mon père et ma sœur, un autre ami qui sont venus. On avait l'avantage d'avoir une chambre d'amis, malgré le fait d'être 8 colocataires. On avait une petite pièce en plus avec un lit où on pouvait héberger des gens. Donc j'ai eu beaucoup de visiteurs et j'ai visité majoritairement le sud en camping-car avec mon père et ma sœur. Et la péninsule nord avec ma tante et ma cousine.
Trop bien.
C'était très chouette.
Donc, tu as eu beaucoup de visites, mais est-ce que toi, tu es rentrée en France pendant ton année ou tu es restée un an en Islande?
Non, je ne suis pas rentrée. Et je ne vais pas mentir, à la base, je n'avais pas prévu de rentrer. Si j'avais trouvé un emploi sur place, je serais restée en Islande.
Donc, avec le corps européen de solidarité, tu avais le droit à des jours de congé. Si oui, donc combien et comment tu les as utilisés?
J'avais droit à 2 jours par mois, comme en France. Donc en tout, je suis partie de 12 mois, donc 24 jours. Mais j'avais une association pas hyper... L'Islande n'est pas hyper pointilleuse sur la ponctualité et ce genre de choses. Donc quand mon père et ma sœur sont venus me voir, j'avais demandé, ils venaient 10 jours, j'avais demandé au moins une semaine. Et ma mentor m'a dit, non, on prend 10 jours, profite d'être avec eux, t'inquiète.
Ouais, donc c'était assez flexible.
Donc voilà, c'était assez flexible. L'idée, c'est aussi on est là pour participer dans une association, mais aussi pour découvrir un pays. Et l'idée, c'est pas de s'enfermer dans ça.
Et est-ce que tu as fait des rencontres marquantes? J'imagine que oui.
Oui, beaucoup. Je suis un petit papillon social. Donc je vais très facilement à la rencontre des gens. J'ai fait beaucoup de karaoké. Comme j'y allais tous les jeudis, je retrouvais les mêmes habitués avec qui j'ai créé beaucoup de liens, qui rêvaient de la France, qui trouvaient ça merveilleux que je vienne chanter en français dans leur karaoké. Et puis j'ai fait du bénévolat dans une autre structure, hors de mon volontariat. Je faisais des distributions alimentaires. Donc j'ai aussi rencontré beaucoup de gens là-bas avec qui j'ai créé du lien. Et je suis repartie, j'ai fait signer un pull à tous les gens que j'avais rencontrés dans ces événements-là. J'ai affiché sur mon mur un pull avec toutes les signatures, les mots de « Reviens-nous vite, on a hâte de te retrouver, reviens au karaoké ». Voilà.
Ouais, c'est un super souvenir.
Ouais.
Est-ce que tu as découvert des traditions ou des habitudes typiques d'Islande qui t'ont marqué ?
Des traditions, oui. Les Islandais ont un... Comment ? C'est très nordique. Ça reste assez commun aux pays type Norvège, Finlande, Suède, Islande, qui ont d'ailleurs des accords de pays nordiques entre eux. Et ils ont entre autres, par exemple, un chat qui s'appelle le Jólukatturinn, qui est un chat qui dévore les enfants qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements pour Noël. Donc il faut s'offrir des paires de chaussettes pour Noël. C'est juste une excuse économique, on ne va pas se mentir, de nos jours. Mais c'est très mignon. Du coup, il y avait un énorme chat en métal sur la place principale qui avait sa patte en l'air et les gens prenaient des photos en dessous. Ça, c'était très chouette. Ils ont 3 jours de célébration au moment du mois de mars-avril où... Un de ces jours qui m'a marqué, c'est que les enfants se fabriquent une espèce de tapette à mouche avec une cuillère en bois et une assiette en plastique. Et ils doivent taper sur les gens avec. Et le plus de gens ils arrivent à taper avec leur tapette, le plus de gâteaux ils auront à la fin de la journée.
Ah oui, ok, étonnant. Voilà.
Les Islandais sont très gourmands.
Ok, et est-ce que tu as découvert des plats typiques, de la nourriture typique aussi que tu as particulièrement aimé ?
Mm-hmm.
Ou pas,
les deux, alors moi je suis végétarienne donc je n'ai pas goûté ces plats parce que c'est un pays très de pêche. L'une des spécialités phares, c'est le requin faisandé. C'est un requin qui est pêché, qui a la particularité de ne jamais uriner, qui est donc bourré d'urée. Il l'enterre pendant 3 à 6 mois. Puis le déterre, le coupe en petits apéricubes et le sert aux touristes. C'est très très fort au niveau de l'odeur et du goût. Souvent, ils le servent avec un shot d'eau de vie passée.
Oh, wow.
Voilà. Les gens qui sont venus me voir, qui ne sont pas végétariens, ont testé. Ils m'ont dit, il ne faut pas le sentir avant de le manger, sinon ça passe encore plus mal.
Ah ouais, ok.
Les Islandais ne le consomment plus que très exceptionnellement à Noël. C'est vraiment devenu de la nourriture pour les touristes.
Okay.
Par contre, ce que les Islandais mangent et qui peut être servi, c'est le mouton. Parce qu'il fait froid, donc ils ont des moutons pour la laine, et du coup, ils le consomment aussi en nourriture.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc effectivement, c'est pas très végétarien tout ça.
Non. Aux États-Unis, ils ont le beef jerky, le bœuf séché. En Islande, il y a des rayons entiers dans les supermarchés de fish jerky, le poisson séché vendu en petits sachets.
Est-ce que tu aurais des anecdotes amusantes pendant ton séjour en Islande ?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, comme je le disais, les Islandais ne sont pas très ponctuels. Ils le savent. Du coup, moi, si je n'avais pas plus d'une heure de retard au travail, personne ne s'inquiète. On voit un texto de « ça va, tu étais en vie ». Si moi, j'envoyais un message en disant « ah, je suis désolée, j'ai loupé mon bus, je vais avoir 5 minutes de retard. T'inquiète, tout va bien ». Donc, ils sont très, très détendus sur ça. Les bus sont entre 2 minutes d'avance et 15 minutes de retard. Donc, ils sont très détendus sur ça. Et ça fait du bien. D'ailleurs, le retour en France à ce niveau-là est un peu dur.
Ouais, je peux comprendre.
Donc, voilà. Et que du coup, c'était même écrit sur les annonces de certains événements à mon travail. Officiellement, c'est écrit 14h. On sait. On commencera vers 14h30.
Ah oui, ok. Genre, c'est sous-entendu que
voilà.
Tout le monde arrive un peu.
On a le quart d'heure angevin de retard à Angers. Eux, ils ont l'heure islandaise de retard.
Ok. Avec le recul, qu'est-ce que cette mission de volontariat t'a appris sur le plan personnel et professionnel ?
Sur le plan personnel, au départ, je pensais être plutôt globe-trotteur